amigos et bienvenue dans Silicon Carnet, le podcast tech picante, coproduit avec French Web. Mon nom est Carlos Diaz, investisseur, entrepreneur et podcasteur. Je suis le gringon chef de cette émission et cette semaine, je vous propose une émission pas comme les autres puisque je vous emmène avec moi à New York. Ça y est, nous y sommes. Je suis au cœur de New York. Je suis à Times Square et Times Square est envahi de NFT. Il y en a partout. On en voit sur tous les écrans de Times Square. Il y a aussi toutes les marques de crypto et de blockchain qui sont représentées. Je vois Coinbase, je vois Polygon, je vois MoonPay. Ils sont tous là. New York City s'est mis aux couleurs de la crypto et de la blockchain. Je me suis transformé en reporter. C'est pas un rôle que je connais bien. C'est ma première fois. J'espère que vous serez indulgents avec moi, mais j'ai décidé de vous faire vivre l'expérience de la NFT NYC de l'intérieur. Vous allez me suivre pendant ces quelques jours. Je vais essayer de débriefer, essayer de rencontrer un maximum de monde, de vous faire de vous concocter des interviews exclusives avec tous les gens que je rencontre ici pour vous faire vivre la NFT NYC comme si vous y étiez. Voilà, on y est. Ça commence maintenant. Salut Bilal.
Salut Carlos.
Qu'est-ce que tu fais là alors? Il y a des chiens là, t'as vu des chiens, t'es venu, c'est ça?
Je suis venu mettre des chiens partout.
T'es venu mettre des chiens.
Exactement. Ouais, ça, on a un filtre sur Instagram.
Ouais.
Et du coup, je suis en train d'instagrammer deux gamins partout dans Times Square, dans New York.
Voilà, on le rappelle, Bilal, tu es à l'origine de ce projet.
J'ai cofondé deux gamins.
Deux gamins.
Qui est cette espèce de Tamagotchi Nintendo qu'on essaie de réinventer avec des NFT, de la réalité augmentée. De rendre le jeu un peu pédagogique autour de l'univers canin.
C'est-à-dire que c'est la même chose qu'un chien, sauf que t'as pas besoin de le sortir, quoi, en fait. Enfin.
Exactement. Là, comme je dis en anglais, c'est the loyalty without the shit.
C'est ça. Eh ben, écoute, non, mais moi, tu m'as séduit. Je connaissais un petit peu de nom, j'en avais entendu parler, mais tu m'as montré le projet. D'abord, esthétiquement, c'est magnifique ce que vous avez fait. Bravo à la Audi.
On s'est très bien entouré.
Artistiquement, c'est magnifique. Vraiment, c'est un super beau boulot. Et moi, je suis un amoureux des chiens. J'ai une chienne. Que je salue Summer qui nous écoute hein, à chaque épisode, qui est un Australian Shepherd. Et donc, je vais acheter mon. Je vais unboxer mes cartes de gaming. J'espère que je vais avoir un Australian Shepherd. On va voir.
Au pire, on pourra swapper.
Et puis, toi, Bilal aussi, c'est pas que de gaming. Parce qu'il y a Pirates Lab aussi.
Ouais, j'essaye de contribuer au maximum à l'écosystème Web3 français. Et je suis notamment à l'initiative d'un startup studio dédié au Web3 qu'on appelle Pirates Lab, où on a pris 1000 mètres carrés vers Porte d'Anières. Dédié au Web3 avec l'objectif de fédérer l'écosystème, de l'animer et d'éduquer toute cette nouvelle génération qui regarde ce qu'est le Web3 et qui veut s'emparer de ses outils pour faire la différence.
Et tu me disais que justement cette nouvelle génération, pour eux, ils sont hyper excités à l'idée de ce nouveau monde d'opportunités qui s'offre à eux. Tu recevais des dizaines de candidatures de polytechniciens qui ne sont pas généralement les gens les plus...
Ils veulent plus faire du trading.
Ils veulent faire du Web3, ils veulent faire de la blockchain.
Non, c'est vraiment impressionnant. En fait, je pense que c'est un contexte culturel qui évolue, déjà dans un contexte générationnel et culturel qui évolue. Je trouve que la nouvelle génération a beaucoup plus de philosophie entrepreneuriale et trouve le Web3 comme une opportunité de se démarquer dans le futur. L'Internet, de manière générale, a permis à certaines personnes de s'émanciper et de se permettre certaines choses. Grâce au Web3, il y a une composante identitaire qui vient se rajouter.
Ouais, c'est ça.
On peut se rattacher à une philosophie, des groupes.
À une tribu.
Une direction artistique. Et en effet, il y a très peu de barrières à l'entrée pour rejoindre. Et en fait, tu sais, je dis souvent, les tokens, il y a cette notion... d'économie locale que les économistes aiment beaucoup. Et je dis souvent, les tokens, en fait, c'est une économie locale, mais qui n'est pas géolocalisée, comme celle de l'économie locale qu'entendent les économistes, mais communautaire.
Ouais. Elle n'est pas localisée, elle est connectée, cette économie.
On a une granularité de communautés auxquelles on a accès. C'est le Netflix de la communauté qu'on voit avec le Web3.
Alors, cette conférence, elle a lieu en plein crash. Des cryptos et du Web3 et de la blockchain en général. Et donc, on voit plein de Français en fait. Il y a plein de Français qui sont venus.
Il y a une bonne communauté.
Donc, je disais, ça a lieu en plein crash. Soit ta vision sur sur ce secteur de la blockchain et du Web3. Est-ce qu'elle a changé depuis ces dernières semaines ? Qu'est-ce qui a changé dans ta tête ?
Non, elle n'a pas changé. Il y a toujours une conviction forte qu'on peut construire des produits économiquement sains. C'est vrai qu'il y avait beaucoup de bruit. Mmh. La situation a un peu assaini. Les gens se focusent trop sur les échecs, mais il faut regarder aussi les réussites. Mmh. Il y a aussi de beaux projets comme Dogami, comme Pirate Lab, comme certaines boîtes de notre studio, comme d'autres boîtes encore.
Dans votre studio, tu me disais que vous avez 6 projets aujourd'hui sur le feu. Il y a Billy notamment dans le ticketing que
Billy,
je connais.
Qui veut réinventer le code barre du ticket avec une composante Web3, le rendre plus dynamique.
Ouais.
Améliorer le lien
et,
l'engagement
et créer de la utility aussi autour du ticket, c'est-à-dire que l'expérience ne s'arrête pas au concert et peut continuer
après le concert, augmentée avec des accès et des avantages privilégiés.
Et il faut le rappeler parce que comme c'est un token et comme c'est un NFT, peut-être que j'ai utilisé le ticket Billy pour aller au concert, mais comme il y a des bénéfices qui sont attachés à ce ticket-là, après le concert, je peux aussi donner ce ticket, comme c'est un objet qui m'appartient,
tout à fait, ouais.
Je peux le transférer à quelqu'un qui, lui, va bénéficier des bénéfices qui sont associés avec ce ticket.
C'est là où on veut réinventer le ticket avec cette stratégie un peu à la Charlie et la chocolaterie en créant des tickets d'or cachés dedans.
Ouais. Charlie et la chocolaterie, je pense que c'est... si tu veux expliquer aux enfants ce que c'est qu'un NFT, c'est le bon film à montrer. Quoi,
ouais,
je pense.
Suis d'accord. Ouais.
C'est une bonne façon de sensibiliser les tout-petits à ce que c'est que ce monde des NFT... exactement. Tu diras bonjour de ma part à Alex.
Je n'y manquerai pas, Alex Durand qui est notre Head of Growth chez Pirate, et salue un autre Alex qui est le Head of Growth de chez Dogami, qui t'apprécie beaucoup d'ailleurs.
Ok, super. Bon bah écoute, moi aussi. Tu leur dis d'acheter un NFT de Silicon Carnet, comme ça ils seront dans la Sienda. Je sais qu'Alex y est déjà, quoi, en fait.
Alright, je partagerai.
Ok.
Merci.
Salut Vidal. Ciao.
Ciao.
Salut Eli.
Salut. Ton prénom?
Carlos.
Salut Carlos, tu vas bien?
Pas de problème. Tu peux m'appeler le Gringo parce que c'est le nom que j'ai dans Silicon Carnet.
Ok, ça marche Gringo alors, je t'apparais comme ça.
Bon alors Eli, on se connaît pas, on vient de se croiser à la NFT NYC.
Yes.
Tu nous as entendu parler français là avec mon pote et tu t'es arrêté, tu nous as dit qu'est-ce que vous foutez là?
Bonne
alors
rencontre.
Moi je te pose la même question, alors qu'est-ce que tu fous là?
Ben on est là, on a un groupe de Français en fait qui cherche à networker, voir des projets intéressants, inspirants. Jusque là pour l'instant c'est ce qu'on fait et aussi on est des collecteurs de
NFT.
Des NFT, top 10 NFT je pense.
Ouais.
Et participer un peu aux events, surtout rencontrer des gens qui sont dans la sphère NFT. Tout le monde se regroupe ici, donc c'est vachement intéressant.
Il y a beaucoup de monde.
Ouais, vachement.
Et tu me disais que tu n'étais pas super content de l'événement, quoi, en fait.
Non, pas trop. Pour plein de raisons, je dirais que la première, c'est que c'est très mal organisé. Très, très mal organisé.
C'est le chaos, quoi.
C'est le chaos de ouf, clairement. Très
mais ça, j'ai l'impression que c'est un peu toujours les événements Web3, en tout cas aux États-Unis,
c'est
toujours
le bordel. Un peu, hein, comme on dit. Les ventes, c'est grave du cash grab. Ils ont survendu.
Le ticket, il coûte General Admission $700.
Nous, on a payé le VIP. $2,000. On a tous payé. Dans de France, on a une vingtaine, on a tous payé.
Et il y a 15 à 20 000 personnes.
Ce qui est le plus choquant, c'est qu'on a payé $2,000 et c'est qu'on aurait pu rentrer gratuitement. C'est pour ça que je dis que c'est du cash grab. Donc, voilà. Ouais.
Mais après, le marché, il est un petit peu particulier. On vit une période... Ouais. Le NFT NYC a lieu en plein crash, des cryptos.
Ouais, de ouf.
Et des gens ont perdu beaucoup d'argent.
Grave.
Comment toi, est-ce que tu vis cette période?
On a tous perdu de l'argent. Il n'y a pas à faire le malin sur ça. On montre quand on gagne, mais personne ne montre quand il perd.
Ouais.
Je pense que c'est bien le monde du Web3. Comment on le vit? Écoute, on construit. Je pense que c'est une phase de construction. Mm-hmm. Je pense qu'il faut prendre le temps de construire pendant ces 2 mois.
Il faut oublier le marché alors.
Ouais, construire et le bull run, je pense qu'il reviendra sur la fin de l'année. Je pense que ce qui est bien, c'est que ceux qui sont là sont des gars du Web3 qui aiment le Web3, tu vois.
Ouais.
Donc ils sont pas là que par opportunité, ils veulent construire des choses et c'est aussi pour ça que c'est intéressant.
Et ce qui est intéressant, c'est que les gens qui restent aujourd'hui et qui sont là, il y a encore beaucoup, beaucoup de monde. Comme tu le dis, ils sont des experts. Mm-hmm. Et on va pouvoir construire enfin des trucs compliqués parce que pour l'instant, là, tout ce qu'on a vu dans les NFT, c'est. C'est un peu du cash grab quoi.
Ouais, clairement. Je pense que le marché a grave évolué. On le voit là sur notre groupe à nous. Tu vois, il y a des gars qui ont fait de très très beaux projets. Les barrières à l'entrée, elles sont de plus en plus hautes. Il faut avoir quand même de l'air insolide, on va dire, tu vois, pour rentrer maintenant dans le monde du Web3 ou de l'innovation, des bonnes idées. Donc, je pense que c'est plus juste un monde d'opportunistes et ça se professionnalise, tu vois.
Et ça, c'est tant mieux, ça va nettoyer un petit peu le secteur.
Ouais, exactement, je pense, ouais.
Bon, ben super, merci Eli.
Merci à toi.
Salut.
Gringos.
El Gringo. Salut Fred.
Salut.
Bon, alors on est à New York et toi, tu es en train de me dire cette conférence, c'est vraiment de la merde.
Alors, c'était pas mes mots, hein, mais tu l'as.
Tu m'as dit c'est le bordel.
Tu m'as traduit bien ma pensée. Alors, il y a 15 000 personnes qui ont acheté des tickets. Il y a probablement autant de personnes qui n'ont pas de tickets et qui tournent autour de Times Square.
Oui, donc ceux qui ont acheté des tickets se disent « Pourquoi j'ai acheté un ticket ?»
Voilà, exactement.
D'ailleurs, toi, tu ne le portes même plus, ton ticket.
Alors, je l'ai dans un coin, mais honnêtement, je suis dans la conférence, le mieux je me porte.
Et toi, en plus, tu as un stand.
Ah, en plus, j'ai un très beau stand. Alors,
ouais, j'ai vu, et puis j'ai vu à l'entrée de la conférence, il y a le nom Ariani.
Il y a mon logo, voilà,
je l'ai vu, hein, je peux te le dire. Donc, ton argent n'est pas complètement perdu. Quoi. En fait, tu es visible.
Écoute, si on a pu.
Je ne sais pas combien t'as coûté, mais.
On va
pas en parler.
Et ça me. Voilà, je me dis deux choses. En fait, c'est un mouvement énorme.
Ouais.
C'est-à-dire qu'arriver à trouver le moyen d'attirer autant de gens.
Ouais. Il y a beaucoup de monde.
Dans un endroit qui est hors de prix. Je veux dire, cette ville est hors de prix. Et d'organiser quelque chose avec, je crois qu'il y a 2000 speakers. Enfin, donc ça montre quand même que c'est quand même un mouvement énorme.
Il se passe quelque chose.
En même temps, ça montre aussi que cet écosystème est complètement immature.
Ouais.
Que tout est à construire. Et puis, c'est pour ça qu'on est entrepreneur et qu'on est là, quoi.
Ouais, absolument. Et c'est vrai ce que tu dis, parce que quand on arrive à cette conférence et on sait qu'on est dans un moment de crash horrible où on lit c'est la mort des cryptos, c'est la fin du monde pour le Web 3, on se dit mais il est où le bear market ? Enfin, si c'est ça le bear market, moi ça me va, quoi. Tu vois, c'est alors, plutôt sympa le bear market.
Faut pas oublier que les tickets, tout ça, ça a été acheté avant, c'est ça. Donc une fois que tu les as, peut-être que quand même tu te dis. Au lieu de rester chez moi, je fais une dernière soirée.
Ouais,
c'est pas. Mais la réalité, c'est quand même qu'il y a beaucoup de gens qui construisent des choses intéressantes. On est désolé pour ceux qui n'ont pas encore levé de fonds, mais en tout cas pour ceux qu'on avait levé, on a du pain sur la planche. Et je pense que c'est là où tu fais la distinction entre ceux qui sont venus par conviction, par vision, et puis ceux qui sont venus parce qu'ils ont vu de la lumière.
Ceux qui montent un projet aujourd'hui, moi je trouve que c'est un super critère de sélection, c'est-à-dire la fille ou le mec qui monte un projet Web3 aujourd'hui qui le lance, c'est par conviction, hein, parce que c'est le market, il peut pas être plus pourri, hein.
Il est clair que on dit time to build, hein.
Ouais.
Bon, ça c'est pour se rassurer, tu vois, de voir ses cryptos se crasher, mais c'est vrai.
Mais quand on dit, alors c'est un mot que j'entends beaucoup, it's time to build, tout le monde se rassure en disant ça, mais it's time to build what maintenant ? Parce que est-ce qu'il faut continuer à fabriquer ce qu'on a fabriqué depuis un an ? Ou est-ce que à quoi est-ce qu'il faut se concentrer maintenant ?
Ça, chacun a sa vision. Moi, je pars du principe que tout va être tokenisé, les objets, la possession des objets, les expériences, le fait d'appartenir à un club, tout. Et en fait, il faut des outils pour ça, on le voit bien. Les wallets ne sont pas prêts. Il reste encore des problèmes de scalabilité des chaînes. En fait, il y a plein de trucs. Et ça me fait penser, alors, si on compare un peu avec l'Internet, ça me fait penser un peu au moment du crash de la dot-com,
ouais.
Bubble. C'est-à-dire que finalement, tout ce qui avait été décrit à l'époque, ça existait. Sauf que ça n'a pas existé tout de suite.
Ouais.
Parce qu'il manquait des outils, il manquait la bande passante.
L'infrastructure.
Il manquait le nombre de gens connectés. Et donc tout ça, il faut le construire. Là, aujourd'hui, on a peu d'utilisateurs de NFT. Bon, faut se le dire. Et il faut arriver à embarquer ces gens-là. Alors comment ? En construisant des produits plus simples, en faisant en sorte qu'on n'ait pas besoin d'acheter de l'Ether pour pouvoir récupérer un NFT, par exemple. C'est quand même plus simple. Donc toutes ces choses-là, il faut les mettre en place. Et je pense que ça passe par plein de projets, plein de cas d'usage dans le gaming, auprès des marques, auprès de... Et on n'est pas loin.
Ouais.
On n'est pas loin. Donc non, ce qu'il faut construire, c'est de l'accès, en fait. C'est vraiment l'expérience utilisateur à tout niveau. Je pense que c'est là où il n'y a pas eu assez de travail jusqu'à présent. Et ça va se faire, parce que là, tous les gens qui sont là, qui exposent...
Ce qui est intéressant aussi dans un bear market, c'est que, comme tu le disais, les touristes sont partis. Ce qu'on a vu cette dernière année, c'est aussi des projets très, très simples, finalement, parce qu'il y avait une volonté d'aller mainstream, peut-être pour aller faire du cash pump, quoi, en fait, auprès de gens qui, finalement, n'y connaissaient pas grand-chose. Et dans un bear market, on va pouvoir enfin se concentrer sur des projets un peu plus compliqués, c'est-à-dire que le mainstream ne comprend pas forcément, mais qui sont hyper importants, justement, pour fabriquer cette infrastructure et cette couche applicative. Et donc, je pense qu'on va... Moi, ce que je dis, c'est que c'est le moment, aujourd'hui, de se concentrer sur des choses un peu plus compliquées que ça ne l'a été cette dernière année. Parce que les gens qui sont encore dans le space aujourd'hui devraient comprendre ces choses-là.
Ouais, et puis le fait de décorréler un peu le... Enfin, c'est horrible, en fait, d'être dans des marchés dans lesquels les gens font du trading.
Ouais.
Quand tous tes collaborateurs, tes partenaires, tes clients sont concentrés sur les prix.
La spéculation.
Ça te mange toute ton énergie, en fait. Et ça, c'est bien, en fait, que ça cesse, parce que ça rend les gens extrêmement lazy.
Ouais.
Et surtout, tu as l'impression de rater des choses en permanence. Ce qui fait qu'au lieu de te concentrer sur le petit truc que tu es en train de construire, ton market fit, etc., tu vas avoir tendance à regarder beaucoup plus ce que ça vaut, ce que les autres font, ce que tu rates. Et ça, c'est pas forcément des choses plus compliquées, je pense qu'il faut construire, mais c'est se recentrer sur la proposition de valeur sur laquelle on doit construire et arrêter de penser qu'il faut tout faire en même temps.
Et ça, c'est intéressant ce que tu dis, parce que il y a un phénomène anti-crypto, anti-blockchain, mais ce que les gens ne comprennent pas quand tu es en dehors de ce monde-là, c'est que même au sein de la blockchain, il y a des familles qui s'opposent et qui se déchirent. D'ailleurs, la blockchain, tu peux la regarder de deux façons, de façon très libertarienne ou au contraire, même presque de façon quasi-socialiste, quoi. Tu vois, et déjà, ces deux populations sont pas du tout les mêmes au sein même de la famille blockchain. Et il y a ceux qui considèrent que la blockchain a été inventée pour nous rendre plus riches et ceux qui considèrent que la blockchain a été inventée pour nous rendre plus libres. Ça, c'est deux familles complètement différentes. Toi, ce que tu es en train de dire là, c'est qu'on est ceux qui sont en train de perdre en ce moment, c'est le Web3 casino, quoi. C'est ça, quoi. C'est celui-là. Alors, il faut qu'on s'en débarrasse, quoi.
Bon, celui-là, de toute façon, au bout du compte, les gens qui jouent à ça perdent toujours. Enfin, on connaît l'histoire. Je pense que ça, de toute façon, ça existera toujours. Je veux dire, mais c'est pas des gens qui sont là pour la technologie, pour le coup.
Ouais. C'est eux les touristes, c'est eux les opportunistes qui viennent parce qu'il y a du cash à faire, il y a des opportunités.
Il y a un truc qui me gêne beaucoup ces derniers mois.
Ouais.
C'est toutes ces énormes ces hordes de gens qui semi-consultants, semi-speakers, influenceurs, etc. qui racontent n'importe quoi.
Ouais.
Parce qu'ils ont vu la lumière. Et parce qu'au bout d'un moment, en fait, en se mettant en groupe, tu vois, c'est un petit peu ce qui s'est passé avec le marché, là, il y a quelques mois, pendant le Covid, où les gens se mettaient d'accord pour aller acheter ensemble des actions pour une raison qui n'était pas du tout fondamentale. Bah, c'est pareil. Si tu te mets tous d'accord, tu vois, pour dire que une collection de NFT, une crypto-monnaie, etc., elle a de la valeur parce qu'il y a toute une histoire que tu inventes et que tout le monde répète, au bout d'un moment, bah, tout le monde suit cette trace-là, que ce soit vrai ou non. Et ces derniers temps, c'était n'importe quoi. Les gens ont raconté n'importe quoi, ont amplifié n'importe quoi, ont acheté n'importe quoi.
Ouais.
Et puis Luna, c'est ça. Hein. Je veux dire,
Luna, c'est ça. Un truc. Tu peux dire la même chose de Lazy Lions, des choses comme ça.
Voilà, c'est bien que ça cesse.
Il y a des gens qui ont créé des communautés dont le seul objectif, c'était d'aller acheter des NFT. Alors qu'en fait, c'est le phénomène inverse qu'il faut faire. C'est-à-dire que tu achète des NFT pour créer des communautés autour, quoi, en fait. Et la finalité, c'est la communauté que tu crées autour de tes NFT.
C'est bien de se dire qu'elle existe pour une raison vertueuse, tu vois, et pas uniquement pour un écran de fumée. Et tu disais qu'il y a des communautés qui s'opposent. Ben oui, il y a des communautés qui s'opposent. Il y a de l'anti-NFT, de l'anti-crypto qui existent à cause de ça.
Ouais.
C'est pas à cause de la valeur qu'apporte cette tech, mais c'est parce qu'il y a des gens qui ne sont exposés qu'à cette partie bullshit. Et quand tu regardes ça de loin, tu te dis non mais attends, c'est n'importe quoi.
Ouais. Et même les gens de l'intérieur de la blockchain considèrent ça comme n'importe quoi.
Ah, moi ça me rend fou. Enfin,
ouais.
Un projet comme Luna, franchement c'est un projet qui devait mourir tout de suite.
Ouais.
Et qui a vécu, qui a grossi, etc. Et c'est terrible parce que ça discrédite tout le monde.
Ouais.
Donc c'est bien, voilà, que ça cesse, ça fait mal.
Ouais.
Mais c'est bien.
On va voir ce qui va naître de la suite justement. Qu'est-ce qu'il va y avoir après en fait? Et ça va être très intéressant. Moi, en tout cas, je reste très excité, quoi, en fait. Merci, Fred.
Merci beaucoup.
Me parece eso el café con hielo. Pero café con hielo con carajillo.
Exactamente.
Un carajillo con hielo.
Exactamente. Bien presentado.
Bien presentado. Donc, on vient de découvrir le café. C'est quoi? C'est Espresso Martini, c'est ça?
Espresso Martini.
Donc, c'est un carajillo con hielo. Voilà. Version espagnole du carajillo con hielo.
Quand tu seras à Barcelone, tu sauras quoi commander.
Exactement. Bon, Mihai, on vient de dîner ensemble. C'était la première soirée au NFT NYC.
Ouais.
On a passé la journée au NFT NYC. On va en parler. Et on vient de dîner ensemble, ça fait 15 ans qu'on ne s'est pas vus tous les deux.
Physiquement, carrément.
Et on n'a pas changé, on a l'impression, comme si on s'était parlé il y a 15 jours.
Mais non. Et en fait, je crois qu'on n'a pas changé. On change.
On
n'a
pas
en
vraiment
fait.
Changé. Même non. Physiquement, on est toujours aussi beau. C'est quand même. Les gens ne nous voient pas, mais.
Et c'est que la brillance reste toujours la même.
Exactement. Bon, on a un peu picolé, comme vous en doutez, mais peu importe. Mais avant qu'on parle de NFT NYC qu'on a vécu ensemble aujourd'hui, cette première journée qui a été super intéressante. Tu t'apprêtais à me dire quelque chose de très intéressant sur pratiquement le sens de la vie, quoi, en fait. Donc, j'aimerais bien qu'on partage ça avec les auditeurs. Eh bien, on a parlé beaucoup de l'entrepreneuriat.
Oui.
Alors, on a évoqué le loup et le chien de La Fontaine. Mais vas-y, continue. Je me suis dit, allez, j'enregistre là parce que t'as prêté à dire quelque chose d'intéressant.
Alors, il faut mettre le contexte. Ça fait quand même 1h30 qu'on parle du sens de pourquoi on est entrepreneur.
Ouais, pourquoi on est entrepreneur.
Et la vraie raison, c'est qu'on n'en sait rien.
On n'en sait rien.
Et c'est la vraie c'est bonne raison. Ça. C'est que si on trouve une raison, c'est pas forcément la bonne.
Oui, c'est ça ce que tu disais. Ça, c'est vachement intéressant. C'est-à-dire que, bien évidemment, que c'est un acte irrationnel. Et que, en fait, moi, je te disais, la question que j'adore poser aux entrepreneurs, c'est pourquoi tu fais ça ? Et moi, j'aime bien qu'il y ait une sorte de lien entre ce que les gens font et ce qu'ils sont. Mais moi, en même temps, toi, tu me disais un truc vachement intéressant. Tu me disais, en même temps, je pense que la meilleure réponse à cette question, c'est j'en sais rien. Parce que, et c'est un truc que j'adore faire, c'est de comparer le fait d'être entrepreneur à être amoureux.
Oui.
Et tu me disais un truc très très vrai, tu me disais, mais quand on est amoureux, on ne sait pas pourquoi.
Bah, c'est-à-dire que si on arrive à trouver les raisons pour lesquelles on est amoureux,
ouais.
Et on s'arrête là, on n'est pas vraiment amoureux. Ça ne va pas durer très longtemps.
Ouais.
Si on est vraiment amoureux, la réponse est « j'en sais rien ». Et d'ailleurs, Montaigne,
ouais.
Pour l'amitié, avait cette fabuleuse réponse qui était « pourquoi ?» Est-ce que tu es mon ami? Parce que c'est toi, parce que c'est moi. Et bien sûr qu'avoir un chemin tout tracé, c'est confortable, mais honnêtement, faire Paris-Marseille sur l'autoroute, c'est vraiment chiant.
C'est absolument... Oui, c'est vrai, c'est quand même très chiant, en fait.
C'est vraiment chiant.
Ouais. Alors que faire Paris-Marseille en roller... sur des routes départementales.
Mais là, il se passe plein de trucs.
Il se passe plein de
et
trucs.
Et sans déconner, en ouais. Arrivant à Marseille, tu auras des trucs à raconter au gars qui venait en bagnole sur l'autoroute,
ouais, c'est
le mec
clair.
Il va pas croire.
Tu arriveras plus tard aussi.
Ah oui, tu arriveras plus tard, mais on s'en fout. Parce ouais. Que si tu arrives plus tôt, qu'est-ce que tu vas faire à Marseille?
Tu vas revenir à Paris.
Ouais, tu reviens à Paris.
Et toujours par l'autoroute.
Tiens, bah ouais, tu vas découvrir de nouvelles stations essence. C'est cool. Ouais. La vie d'entrepreneur, c'est une merde.
C'est une vie de merde.
C'est en gros 5 ou 10% de super bonheur et plaisir pour 90% d'emmerde, de frustration, de douleur, de claque dans la gueule.
Et ce que je te disais, ma femme, elle dit, c'est comme vivre avec un joueur de poker. C'est-à-dire
ouais.
qu'il rentre le tard, vraiment tard la nuit, quoi, en fait, vers 5-6 heures du matin. Il est de mauvaise humeur. En fait, il a perdu de la thune. Quoi, en fait, il est angoissé. Il ne sait pas s'il va pouvoir se refaire la prochaine fois. C'est une vie de merde. Hein,
bah, c'est ça.
Et il faut penser aussi à les gens qui vivent avec
c'est
nous.
Vraiment
quoi, en fait,
ça.
Et ce n'est pas agréable.
Et ce n'est pas agréable. Et du coup,
Ah, alors attends. Non, viens. Ouais. On est au restaurant italien. On est où exactement? Alors, notre serveur est du Congo, c'est ça? Du Congo.
Oui, Congo. Mon famille, mon mère de Brazzaville et mon papa est de Kinshasa site.
Magnifique.
Voilà. So split up, you know, Belgium, they split it up.
Oui.
And so, oui, c'est bon, man.
Donc, tu parles le belge aussi?
Non. Is this on the radio?
Yeah, it's for a podcast, you know, man. Awesome. You're on a podcast, you know. You're on a French podcast.
It's a French one?
Yeah.
Right. So any of those French bilingual speakers that speak English, what's up? How we doing? I need to bring up my French.
Yeah.
These two guys were amazing, awesome, great people. You didn't tell me your name.
Carlos and Mihai.
Carlos.
Yes.
Carlos.
It's not very French. Yeah, I know.
We're
half Spanish and half French.
Nice. What part? What?
Barcelona.
Barcelona. Oh,
yes.
Spain. Okay.
Yeah. Okay.
But don't worry.
What was your name?
Mihai is not very French as well.
It's super French.
Non, c'est pas français, ça.
Non, c'est très breton.
C'est très breton. Non, il est.
On est
des purs produits français. C'est-à-dire que nous, on est des produits d'immigration française.
Exactement. Moi, je suis né en Roumanie.
Il est né en Roumanie et moi, je suis né en France, mais mes parents sont d'origine espagnole.
Oui.
Et toi, tu vois, tu es congolais et tu parles aussi français et t'es quelque part
français.
On fait tous partie de la francophonie. Bon, mais merci Jonathan. Merci. Voilà, on est à New York. On est où là? Je sais même pas dans quel quartier est-ce qu'on est, quoi. On est East Village là ou
On est côté Est, ouais.
Ouais, voilà. Et on s'est posé dans un restaurant et on est tombé sur un serveur congolais. Alors, ce qui est intéressant, en fait, dans tout ce qu'on est en train de dire là, c'est que tous les deux, on est un peu des gorilles cendrés, quoi. C'est-à-dire que c'est pas quand même notre première start-up. On est des entrepreneurs depuis un petit bout de temps, quand même. On n'a pas commencé, on a commencé tôt. Toi, tu me rappelles, tu avais lancé Gloria, cette plateforme qui était le Netflix avant Netflix, quoi, grosso modo, où t'envoyais des DVD par la poste, parce qu'on rappelle que Netflix faisait ça, comme ça, quoi, en fait, quoi. Tu faisais ça.
Avant que la bande passante soit suffisante pour faire du download et du streaming.
Exactement. Ça s'appelait Gloria. Et je me rappelle très bien de ce projet. C'est à ce moment-là qu'on s'est rencontrés. C'était il y a combien de temps, ça? C'était il y a 20
ans? C'était en 2004, par là, 2003, 2004.
Ah, t'as fait 20 ans, mais 2005. Presque. Ouais. Et donc, c'est intéressant de voir que 15 ans après, on refait un dîner ensemble et on parle encore de ça, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Il y a ce mythe. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui nous étonne encore, même nous-mêmes, quoi, en fait, entrepreneurs. Tu vois ce que je veux dire? C'est qu'on se retrouve en tant qu'entrepreneur.
C'est fascinant. Hein. Ouais. Pourquoi on fait ça, quoi? Moi, je crois que la réponse la plus rapide, mais ce n'est pas la plus profonde, la plus rapide, c'est qu'on ne sait pas faire autre chose. Mais tu sais, je pense que c'est finalement, ça va avec la liberté, c'est être profondément libre. Mais la seule chose qui est vraiment incroyable, qui nous fait lever tout le matin et tous les matins et qui nous fait bosser 20 heures par jour... c'est qu'on se sent vivant à chaque seconde. On parlait du chien et du loup. Bah, le chien, il n'est pas en edge. Hein. Il est plutôt garanti qu'il aura son pâté. Il va faire son tour du pâté de maison pour faire son petit pipi. Le loup, il ne sait pas s'il va bouffer. Il ne sait pas s'il ne va pas se faire bouffer. Il ne sait pas s'il ne va pas crever dans la neige. Voilà. C'est une question
et tout le monde le chasse et tout le monde a peur de lui et c'est quelqu'un de dérangeant.
C'est la vie. En fait, c'est la vie de toute espèce animale ou végétale d'ailleurs qui est de prendre des risques finalement.
On va revenir à NFT NYC parce que on a fait la première journée. NFT. Enfin, c'est pas forcément la première journée parce que comme tu me le disais, toi t'es arrivé lundi et la conférence a commencé officiellement ce matin, mais en fait elle a commencé hier. On est en plein milieu d'un marasme total des cryptos. On est dans le chaos là, quoi, en fait, quoi.
Voilà, on est vraiment au bas du bas, mais je pense que c'est pas encore le bas du bas.
Pas encore le fond de la piscine.
On n'est pas encore au fond de la piscine, non. Ça a beaucoup dégringolé, mais ça va.
Ça va continuer à dégringoler.
À mon avis, ça va encore toucher le fond. Je pense que l'Ethereum à 1100, c'est un faux espoir. Je pense qu'on va toucher simple. On va aller vers les 800 ou les 700, voire peut-être plus bas.
Aujourd'hui, on est à 1100.
1100, ouais. On était à 900 il y a 2-3 jours.
Ce week-end.
Je crois pas qu'on se va remonter tout de suite.
Ouais.
Mais ce que je pense, c'est que dans quelques mois, ça risque de remonter assez vite et beaucoup.
Ok. Ta conviction, est-ce qu'elle a changé sur le...
Non, pas du tout. Bah non, parce qu'en fait.
Alors, quelle est ta conviction,
ma
justement?
Ma conviction, et je vais parler du Bitcoin, moi, je me rappelle parfaitement. Moi, j'ai commencé dans le Bitcoin en 2013.
Okay.
En 2017, j'ai acheté du Bitcoin encore, parce que j'achète régulièrement. J'en ai acheté à 3000, 4000, 5000, 9000. Mais je me rappelle qu'en décembre 2017, le Bitcoin est monté à 18000, 19000, puis il a touché 20000.
Ouais.
Moi, j'ai plein de copains qui ont acheté à ce moment-là. Pourquoi ils l'ont acheté? Parce qu'on en parlait partout dans les médias grand public.
Ouais.
Avant, on n'en parlait pas.
Ouais.
Mais quand on a touché les 20 000, tout le monde disait « Mais c'est de la folie, t'arrives à 20 000, c'est n'importe quoi, mais pourquoi il est si haut ?» Et plein de copains qui m'entendaient parler de Bitcoin se sont dit « Merde, ce truc est en train de monter,
que j'en achète aussi.
Je vais en racheter.
Ouais. »
Après, évidemment, il s'est cassé la gueule.
Ouais.
À 15 000, 10 000, 8 000, 3 000 de nouveau. Et plein ont vendu en disant « Oh là là, j'ai tout paumé, qu'est-ce que j'ai été idiot d'acheter un... »
Never again. Est-ce qu'il a créé toute une horde de anti-crypto, quoi,
ben
justement, à cette époque-là?
Mais
oui,
mais il ne faut pas oublier que le Bitcoin, il a des cycles. Il faut regarder juste les cycles. Et le Bitcoin, il était, il n'y a pas très longtemps, il était à 63 000.
Ouais.
OK. Donc, en fait...
en novembre de 2021.
Voilà. En 2017, en décembre, le Bitcoin était à 20 000. Tout le monde disait, mais c'est de la folie comment il est haut. C'est une bulle. Aujourd'hui, le Bitcoin est à 20 000 et tout le monde dit, mais c'est pas possible, c'est la mort du Bitcoin.
Ouais.
Faut quand même se mettre d'accord. Faut se mettre d'accord sur ce qu'on dit. Chaque gouvernement de la planète fera tout ce qu'il peut, tout ce qu'il a en son pouvoir pour imposer des réglementations. Chaque individu sur la planète fera tout ce qui est en son pouvoir pour s'opposer à ces réglementations. La crypto rend souverain, rend libre les humains. On a vu ce qui s'est passé avec la grève des camionneurs au Canada. Quand, du jour au lendemain, les camions ont fait grève, c'était leur droit, c'était dans la Constitution.
On leur a suspendu leur carte bleue.
On leur a suspendu le compte bancaire.
Le compte bancaire,
ils ne pouvaient plus accéder à leurs finances.
Ouais.
Quand on coupe le compte bancaire de quelqu'un sur...
On n'existe plus.
Et sur un décret présidentiel,
ouais,
ça veut dire qu'on élimine toutes les libertés humaines.
Ouais.
La liberté de parole, la liberté de vivre. On ne peut pas acheter à manger,
ouais,
on ne peut pas s'exprimer parce qu'on a besoin d'argent pour s'exprimer. Parce qu'on est
dans une société de la consommation. Bien sûr.
Voilà. On ne peut pas se déplacer parce qu'on a besoin de payer pour se déplacer. On n'a pas assez accès à l'argent. Et ça ne s'est pas passé au Rwanda, ça ne s'est pas passé en Argentine, au Venezuela.
C'est passé au Canada.
C'est passé au Canada, qui est l'une des démocraties les plus fondamentales de la planète.
Bien sûr.
Donc, quand on voit ça, on comprend que oui, être souverain et avoir un contrôle de son argent et de ses finances, c'est quand même pas des petites histoires qu'on raconte à ses enfants.
Bon, écoute, on est en train de nous foutre dehors. On y va. Encore un Français, quoi,
encore
en fait.
Un Français.
Quoi,
en fait.
On ferme le restaurant, je suis désolé. C'est l'heure de fermer le restaurant.
Alors, on va payer.
Ramenez la coupe à la maison. J'adore la République. Allez, la France.
Alors, vive la République, vive après la République. L'édition.
Après l'édition. Vous nous amenez l'édition.
C'était très bien, merci.
Excellent. Vous êtes formidable. Merci beaucoup.
Donc, on va y aller. Mihai, on s'en va à la soirée de Sandbox.
Oui.
On va essayer de retrouver Mathieu Nouzareth, qui
absolument
nous a invités, quoi,
bien
en
sûr,
fait, et Sébastien
sûr
Borgé. Et on va essayer de peut-être enregistrer là-bas aussi pour voir l'ambiance de la soirée Sandbox.
Ah, ça sera sympa, ça. Puis voilà, on pourra parler de NFT un peu.
Ah, exactement. On parlera des NFT.
Ben oui.
Allez, rendez-vous chez Sandbox alors. OK. On est à la Sandbox Party, on est à la NFT NYC. Et alors là, on est dans une salle, on a l'impression que c'est un peu le coin des nerds, qu'en fait, on est sorti de la soirée.
C'est ça.
Et qu'est-ce qui se passe ici? Et vous êtes qui, vous?
Moi, je suis juste quelqu'un qui essaye de builder dans le métaverse, qui a créé sa société récemment pour aider des sociétés qui veulent se lancer en fait dans le métaverse, qui pensent que c'est quelque chose de compliqué, alors que c'est quelque chose de très simple qu'on a commencé à faire il y a 20 ans.
Tu as quel âge, quoi, en fait?
Là, j'ai 26 ans.
26 ans. Mais alors, toi, ce métaverse, ça veut dire quoi pour toi, quoi, en fait, pour ta génération? D'abord, c'est quoi ton prénom, d'ailleurs?
Mon prénom, c'est Alexandre.
Alexandre.
Et pour moi, en fait, le métaverse, il y en a beaucoup qui en parlent comme quelque chose de très compliqué.
Mm-hmm.
Mais, OK, suis-moi là-dessus. On est d'accord qu'en fait, dans les années 1900, 100% de notre attention était physique.
Ouais.
Okay. Ensuite, on est arrivé dans les années 1930, il y a la télévision qui arrive. Là, on passe à 90% de physique et 10% de digital. Aujourd'hui, on est à 50% de digital avec les réseaux sociaux, avec les mails, avec tout ça.
On passe plus de 11 heures par jour online, que ce soit pour travailler ou n'importe quoi. Je ne parle pas du métaverse. Donc, ça veut dire que si on considère qu'on dort 8 heures par jour, la majorité de notre vie réveillée, qu'en fait, elle est online.
Et c'est ce que je ressens, en fait. Et l'idée, en fait, c'est que, au fur et à mesure du temps, que ce soit avec, au final, le télétravail qui va arriver, que ce soit avec plein de choses, en fait, on va passer peut-être 75% de notre vie qui va être digitale.
Mm-hmm.
L'idée, c'est pas de remplacer, en fait, ce qui existe dans le physique, c'est simplement d'améliorer le virtuel. C'est quelque chose qui est déjà en place, c'est quelque chose sur lequel tu peux voir du Facebook, tu peux voir du Amazon, du Apple, ils investissent des centaines de milliards d'euros dedans. Et voilà, c'est juste quelque chose qui arrive. Et maintenant, il faut éduquer les gens pour qu'ils comprennent ce que c'est.
Donc, en fait, vous êtes des idéalistes, en fait. C'est-à-dire que vous avez un monde là qui existe et qui est en train de naître et vous essayez juste de faire en sorte que ce monde-là ressemble à quelque chose et ressemble à vous, quoi, en fait.
Non, je pense pas qu'on est des idéalistes. Je pense plus qu'on est des réalistes, en fait. En fait, il y a quelque chose qui arrive. Et en fait, ce truc qui arrive là, c'est quelque chose qui a déjà commencé il y a 20 ans. Tu peux parler au final, c'est qui a le contrôle aujourd'hui d'Internet? Ça va être les GAFAM. Et les GAFAM, c'est dans quoi est-ce qu'ils investissent? Ça va être dans le métaverse. Ça va être dans le fait d'améliorer toutes ces choses. Donc, c'est quelque chose qui est déjà en place, en fait.
C'est une machine qui est déjà en route. Et en fait, juste, on est juste réaliste sur le fait que, ben voilà, il y a tout le monde qui a investi dessus, que c'est ce qui va arriver plus tard. Et donc, du coup, on essaye tout simplement de se préparer pour ne pas être trop tard et pour pas être les personnes, en fait, qui vont se dire, ah mince, c'est arrivé, j'aurais dû y aller, mais non, ben, j'y suis allé. Peut-être qu'on a tort, encore une fois. Je suis pas capable de lire dans le futur. Je préfère, en fait, regretter d'avoir fait quelque chose plutôt que de me dire, what if?
Ouais.
C'est le pire truc à se dire, en fait.
Toi, vous connaissez tous les deux, quoi?
Non, on vient de se rencontrer ce soir. Alors, on se connaît pas du tout.
Toi, tu es Canadien, quoi?
Canadien. D'Ottawa, la province, capitale, tout ça.
Quelle est la place de la blockchain, à ton avis, dans ce nouveau monde qui existe aujourd'hui et qui est en train d'apparaître?
Encore une fois, la blockchain, c'est la progression. C'est le futur. C'est avoir à nous la propriété et avoir preuve de propriété artistique, visuelle, peu importe, mais on a propriété, c'est à nous. Et puis, on peut le prouver. Le smart contract, c'est public. Ça se voit. C'est pas un truc privé, c'est pas un truc derrière des portes fermées, c'est un truc visuel. On peut tous voir. Alors, ouais, voilà, t'as bien dit. C'est le futur, c'est ce qu'on veut. On veut tous voir ce qui se passe. On veut tous voir la progression de l'art, la progression de notre société, quoi.
Il y a un truc qui me frappe, en fait, dans ce nouveau monde qui est le métaverse, la blockchain, le Web3. C'est qu'il y a une forme de diversité absolument incroyable. On en parlait tout à l'heure avec Mihai, dans le sens où on avait dans ce monde de l'Internet l'habitude de retrouver le typical white male nerd from Stanford. Et moi, je suis à NFT NYC. Et il y a beaucoup de filles, il y a beaucoup de gens issus de minorités, de gens de couleur, de gens des Asiatiques, des Blacks, des Mexicains, etc., etc. Qu'est-ce que ça veut dire, ça, pour toi, Alexandre?
C'est super marrant que tu dises ça, parce que déjà, en fait, le premier point, en fait, c'est qu'avec le Metaverse, en fait, pour exemple, en fait, il y a pas mal de personnes qui vont travailler, tu connais pas leur tête, dans le sens où ça va être des clones, ça va être des avatars, tu sais pas qui c'est. Et c'est uniquement, en fait, les idées qui vont primer. Et donc déjà, par rapport à ça, tu supprimes énormément de barrières. Il y a encore deux autres points où ça me fait rire, en fait, c'est qu'il y avait un de mes clients et il disait, ouais, mais justement, le métaverse, est-ce que ça va pas justement, en fait, renforcer des inégalités qui peuvent arriver? Et est-ce que je lui ai répondu, mais vous êtes totalement dans le faux. Dans le sens où, justement, en fait, l'idée, c'est de pouvoir travailler, en fait, sans frontières, avec peu importe. Et par rapport à... C'est quelque chose qui arrive souvent, en fait. Moi, qui avant bossais en tant que banquier d'investissement, c'est un milieu qui est très élitiste. Ça marche beaucoup par piston, etc. C'est comme ça que la vie fonctionne aujourd'hui. Mais avec le Web3, en fait, tu supprimes ça. Tu supprimes au final qui appartient à qui. C'est juste, en fait, le talent qui compte. J'ai parlé à beaucoup de personnes, en fait, qui étaient dans le Web2 à la base. Et dans les années 98-2000, ils me disaient que c'était des personnes, en fait, successful. Et ils avaient 45-50 ans.
Des mecs comme nous, quoi.
Par exemple. Non, mais par exemple, tu vois. En soi. Mais c'est que ces personnes-là, en fait, ils parlaient à des personnes de 18 ans. Ces personnes de 18 ans, en fait, ils lui apprenaient la vie dans le sens où bah, ils lui apprenaient ce que c'était le Web 2, ce que c'était les sites internet, le potentiel avec ça. Aujourd'hui, on est dans un système en fait, qui est très authentique, notamment dans le système bancaire et autre chose, où bah, voilà, le traditionnel, c'est quoi? C'est d'abord, tu vas aller dans une Ivy League, ensuite, tu vas bosser en banque d'investissement, par exemple, après en private equity. Enfin, c'est un schéma qui est vraiment très tracé.
Un tunnel, tu rentres dans un tunnel.
On apprend les mêmes choses, exactement.
Ouais.
Alors qu'en fait, le Web 3, c'est juste en fait, bah, essayer de trouver d'autres chemins pour essayer en fait, de faire quelque chose de vraiment valuable. Et en fait, en leur en parlant, bah, c'est quelque chose en fait, qui leur a marqué en mode... Ouais, bah,
mais qu'est-ce
sense.
Que je fais à Stanford, quoi, en gros, grosso modo?
Pas forcément, parce que je pense que ça t'ouvre énormément de chance. Je ne serais pas en train de critiquer ça, mais juste qu'en fait, il faut avoir une ouverture d'esprit à travers ce qui se passe dans le monde. Et donc, par rapport à ça, bah, le Web3, c'est ce qui peut t'ouvrir le plus de portes d'une façon très, très facile, en fait. Et que là, en fait, on est encore dans cette période de temps où tout est nouveau, il faut tout construire. Et c'est énormément du coup d'opportunités pour beaucoup, beaucoup de monde.
Génial.
Et voilà.
Merci Alexandre. Ton prénom?
Carl.
Carl et Alexandre. C'était génial de vous parler. Merci beaucoup.
Avec grand plaisir.
Avec plaisir.
Salut Mathieu.
Salut Carlos.
Alors maintenant, tu es de retour à New York parce que je le dis, parce que toi, tu es un New Yorker, quoi, en fait, à la base.
Ouais, j'ai et passé 13 ans à New York.
Voilà,
ouais.
Mais t'en avais marre du temps, quoi, en fait, du climat. Et maintenant, tu es à LA.
Je suis basé à Los Angeles, effectivement, j'ai déménagé.
Ouais.
Non, c'est pas marre du climat, j'ai envie de voir un peu autre chose. Et puis, j'ai commencé une nouvelle aventure aussi.
Voilà, alors parle-nous de ça, parce que toi, tu es un entrepreneur. On te connaît à la tête de plein de startups, notamment dans le domaine du gaming. Ouais. Fresh Planet, c'était ta dernière aventure, je crois.
C'était ma quatrième aventure. Ma dernière, c'est une... C'est de mining de Bitcoin, donc c'était
ah
la
oui,
cinquième.
Ah oui, mais elle était presque en parallèle de Fresh Planet, celle-là.
Je l'ai fait avec ton frère. Temps. J'étais cofondateur et je suis administrateur.
Ouais.
Et voilà, donc j'ai vendu Fresh Planet à Gameloft en 2018. Et donc, en fait, l'histoire, c'est que je devais un peu... C'était la fin de mon earn-out. Je réfléchissais un peu à quoi faire après et je n'avais pas du tout anticipé d'arriver chez Sandbox.
Ouais, alors maintenant, aujourd'hui, tu es chez Sandbox.
Voilà, je suis CEO des US.
Waouh !
Voilà, et je m'occupe aussi de tout ce qui est corp dev. Je fais aussi du biz dev et du gros, du marketing et pas mal de choses.
Alors là, tu m'as donné rendez-vous. On est juste à côté du Nasdaq. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Sandbox va rentrer en bourse?
Non, là, j'ai un rendez-vous. J'ai une interview.
Donne-nous une exclue.
Je ne peux ni confirmer ni infirmer cette information.
C'est formidable. Bon, mais alors, NFT NYC, Sandbox est super présent à cette conférence.
Ouais.
J'étais, il y a une soirée avec Steve Aoki.
Voilà, ça, c'était lundi soir.
Voilà.
Avec Corday, on a fait une soirée mardi soir avec DJ Tiesto, qui est considéré comme le plus grand DJ du monde.
Ouais.
Donc, et on a eu une foule incroyable. Même le Fire Marshal est venu nous faire fermer les portes parce qu'il y avait trop de monde.
Ouais.
Et donc, c'était une très, très...
Et ce soir, c'est Madonna. Soirées.
Alors, ce soir, on organise avec World of Women une soirée avec Madonna.
Ouais.
Voilà. J'espère qu'on t'y verra, Carlos.
Non, moi je serais parti San Francisco. Je vais pas rester. Madonna m'a envoyé un texte en me demandant si je serais là. Malheureusement, je ne serais pas là. Mais ok, donc en gros, il est où le bear market là?
Il existe. Il existe en fait. La plupart de tous les gens qui viennent ici, tous les exposants, c'est des engagements qui ont été pris il y a quelques mois.
Ouais.
Il existe et effectivement, tout le monde en parle. Hein. Faut pas se cacher la vérité. Et voilà, c'est pas une période très fun, mais bon, toi et moi. Ça fait 27 ans que je suis entrepreneur de la
tech.
J'ai fait beaucoup de rodéos, comme on dit ici. Ouais. Et bon, ça me...
T'as survécu à 2000-2001?
J'ai survécu à 2001, 2007-2008.
2017 dans les cryptos.
2017 dans les cryptos. Et même au début de la pandémie, bon, finalement, ça s'est bien retourné. Mais ouais. on a quand même un peu... On n'en menait pas large au début de la pandémie. Moi, je pensais que ça allait être vraiment beaucoup plus grave que ça. Et finalement, il y a eu tellement d'argent injecté par les États qu'on n'a pas vu ça passer.
Et d'ailleurs, une partie de cet argent qui a été injecté par les États s'est retrouvée dans les cryptos. Parce qu'en fait,
c'est retrouvé dans les cryptos, voilà. Entre autres. Ouais.
Et c'est aussi une des choses qui explique aujourd'hui la crise. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est face à une inflation qui est galopante. Et cet argent qui a été investi dans les cryptos, maintenant, les gens en ont besoin de ce pognon-là.
Il a été investi partout, dans l'immobilier, dans les actions, dans les cryptos, dans toutes les classes d'actifs. En fait, on parle de la crypto parce qu'il baisse, mais le Nasdaq n'est pas en grande forme. Je pense que l'immobilier est sur le point de faire un énorme crash.
Ça prend un peu plus de temps, mais dans un an 4, ou deux, 5, ça va...
Ouais, moi, je pense que dans 5-6 mois, ça va baisser fortement.
Ouais.
Et donc, c'est toutes les classes d'actifs qui baissent. Et voilà, alors les États, ils ont... Je dis pas qu'ils ont mal fait. Hein, il fallait juger à l'instant T avec une situation dramatique. Donc, ils ont fait
ce qu'ils
pensaient qu'il fallait faire. C'est toujours facile de réécrire l'histoire après.
Bien sûr.
Il y a eu trop d'argent investi. Mais voilà, donc on en paye le prix aujourd'hui et bon, je ne sais pas combien de temps ça va passer. En tout cas, ce que je peux te dire, c'est que moi, ça ne change absolument pas mon implication, mon enthousiasme pour la crypto.
Et ta conviction sur le sujet.
Ma conviction sur le sujet qui est toujours à 200%. Je suis toujours convaincu que c'est l'avenir de la tech. Et donc,
mais explique ça justement. Qu'est-ce qui te fait dire que peu importe le prix, ça reste encore quelque chose d'inéluctable, cette histoire de crypto et cette histoire de Web3?
Alors, je ne suis pas encore 100% sûr que ce soit inéluctable parce qu'il faut... Je vais être très franc, je pense que la communauté du crypto, on ne fait pas encore un très bon boulot pour être ouvert aux indécis et aux sceptiques. On se trouve qu'on se renferme un peu trop.
Ouais.
Je trouve qu'on n'est pas...
Mais d'abord, on n'est pas d'accord entre nous, déjà.
On n'est pas d'accord entre nous, mais ça fait partie un peu du débat. Ce n'est pas trop grave. Je trouve qu'on est... On se sent un peu attaqué. La réalité, c'est qu'en dehors de notre bulle de crypto... Les gens ne nous aiment pas beaucoup, c'est la réalité.
Il y a même des gens qui nous détestent.
Il y a beaucoup de gens qui nous détestent, parfois pour des raisons, des bonnes raisons, parfois pour des mauvaises raisons. Et je pense qu'on fait un très mauvais travail d'ouverture, de compréhension, d'empathie vers les gens qui nous détestent. Et si on doit réussir, il faut aussi convaincre la majorité, ce qui n'est pas encore le cas aujourd'hui. En revanche, moi, je suis toujours très, très bullish, comme on dit ici, sur cette industrie qui réinvente beaucoup de choses, qui décentralise, donc qui donne du pouvoir...
aux
créateurs,
individus.
Qui donnent du pouvoir aux utilisateurs. Je vais vous donner un exemple de Sandbox. Il y a beaucoup de résistance dans la communauté du jeu vidéo.
Oui.
Y compris chez les développeurs de jeux vidéo, chez les programmeurs, chez les...
Qui considèrent que les NFT sont encore une fois un nouvel outil pour leur piquer de la thune. Hein.
Voilà, les gens nous disent, c'est pas bon pour l'environnement. Ça, c'est le premier argument. On l'entend moins parce que finalement, on s'aperçoit que c'est pas vrai ou que dans quelques mois, ça sera un problème quasiment inexistant.
Quand Ethereum va passer sur du proof of stake, ça va changer beaucoup de choses. Et c'est une histoire de quelques semaines.
De quelques
ça a été annoncé à la fin, ça devait être là et ça va être annoncé.
Voilà, c'est, allez, c'est déjà en septembre, ouais. Au pire, c'est en novembre. Ouais. Et en cas de catastrophe, c'est en décembre. Enfin, c'est à 5 mois. Et donc, ça va utiliser un millième de l'énergie que ça a utilisé avant. Nous-mêmes, chez Sandbox, on passe sur une solution qui s'appelle Polygon. Qui est une solution en
qui
fait.
Qui est la solution que j'utilise aussi sur N4.
Voilà, qui est la solution, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais qui se met sur une couche au-dessus de l'Ethereum, ça s'appelle Layer 2 dans un langage technique, et utilise encore très peu d'énergie. Donc, ça, c'est un débat qui va disparaître, ou qui devrait disparaître, même si je m'attends quand même à ce qu'on me le balance encore dans 3 ou 4 ans, même si c'est plutôt vrai. Le deuxième argument, c'est on dit c'est un cash grab.
Ouais.
C'est un moyen pour les gens comme vous de s'en mettre plein les poches au détriment des créateurs, au détriment des joueurs. Moi, ça me rend triste parce que je donne l'exemple de Sandbox. Nous, ouais. Sandbox, notre tech rate, comme on dit ici, notre commission, elle est de 5%. Et les gens du jeu vidéo, ils travaillent sur des plateformes comme iOS ou comme Android qui prennent 30%. Alors, il est où le cash grab? C'est ça que je comprends pas.
Ou Apple Store.
Ah oui, quand je dis Apple Store, ils prennent 30%. Il est où le cash grab? Nous, on est là pour créer une communauté de créateurs et pour avoir aussi des joueurs.
Et pour leur redonner 95% de la valeur qu'ils créent.
95% de la valeur créée. Avec des outils qui sont gratuits, qui sont no-code.
Non, mais je pense que le cash grab, il est sur toutes ces initiatives de NFT où on a vendu des JPEG à des prix faramineux en disant…
C'est vrai qu'il y en a.
Il y a eu un discours qui disait que la blockchain va rendre tout le monde riche, alors qu'en fait, la vérité, c'est que la blockchain, elle a été inventée pour nous rendre libres.
Exactement, c'est plus la liberté que la richesse.
Ouais.
Ah, c'est vrai que dans notre industrie, il y a des scammers, il y a des con artistes, il y a de la fraude. Il y a eu, il y a quelques semaines, il y a eu l'UST qui a été une catastrophe. 65 milliards de dollars sont partis en fumée en quelques jours.
Ouais.
Bon, pas terrible.
Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on a besoin de régulation dans ce milieu-là?
Alors ça, c'est une très bonne question. En tout cas, chez Sandbox, et je pense dans pas mal de gens de la crypto, on est ouvert à la régulation. En tout cas, on est ouvert au dialogue. Ce qui nous gêne un peu aujourd'hui, c'est le manque de clarté, notamment aux États-Unis. On est un peu dans une zone grise. On ne sait pas comment, à quelle sauce on va être mangé. En tout cas, si les régulateurs sont prêts à un dialogue, un vrai dialogue constructif, nous, on est là. Et on est prêt. Moi, je suis prêt à dire, oui, les stablecoins, on a vu ce qui s'est passé avec Terra. Donc, c'est 65 milliards qui sont évaporés.
Oui, mais USDC, par exemple, c'est un stablecoin qui est privé.
Ça marche très bien.
Mais qui est vraiment stable parce qu'à chaque dollar, il y a un dollar correspondant qui, lui, est en fiat sur un compte.
Et tu sais, il y a un autre sujet aussi dont personne ne parle, c'est la finance décentralisée.
Oui.
Et en fait, aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Les gens qui se plantent, c'est la crypto non décentralisée aujourd'hui. Hein, Celsius Network, Three Arrows, Terra. Tous ces gens qui sont en train de s'effondrer, c'est des gens qui sont opaques, qui ont de la finance non décentralisée. Toutes les plateformes de finance décentralisées...
On voit pas, elle n'est pas publique, on ne sait pas ce qui est fait avec cet argent.
On ne sait pas ce qui se passe. Donc les gens, ils prennent de l'argent. Qu'est-ce qu'ils font derrière? Ils les leverage, ils empruntent. Ils essaient de gagner de l'argent sans que tu saches exactement ce qu'ils en font.
Bien sûr.
La finance décentralisée, les Uniswap, les SushiSwap et tous les autres, ça a marché nickel. Tu as le meilleur proof of concept. En ce moment, dans un marché catastrophique, la finance décentralisée a fonctionné à merveille.
Ouais. Et Uniswap est un bon exemple de ça, quoi, en fait. Quoi.
Tout est ouvert. Il n'y a pas des fondateurs d'Uniswap qui sont partis avec la caisse. Parce que ça, tu ne peux pas, ça n'existe pas.
Mais ça, c'est un argument aussi pour une forme de régulation aussi de ça. Parce que Uniswap se plaignait qu'eux font le travail correctement, etc. Et qu'ils sont en concurrence avec des plateformes qui sont offshore, absolument, où on ne sait pas qui est derrière. Uniswap a donné naissance à SushiSwap et on ne sait pas vraiment SushiSwap ce qu'il y a derrière, etc. Et ils disent qu'avec de la régulation, au moins, ça évitera des concurrences un petit peu...
Sauvages,
quoi.
Ouais, bah alors la concurrence, la réglementation, je pense qu'on a tous envie d'avoir un cadre clair qui permet à la fois de protéger les consommateurs et les investisseurs, mais qui permet aussi de faire de l'innovation. Et c'est toute la finesse que doivent avoir les hommes politiques ou les régulateurs. Et c'est ça qu'on veut nous avoir, c'est un dialogue constructif. Moi, je suis prêt à aller les voir.
Il va falloir commencer par leur expliquer de quoi on parle. Hein, parce que
non, mais il faut qu'on leur explique. Moi, je suis prêt à écouter leurs problématiques. Je suis prêt à écouter leurs arguments. Je suis prêt à discuter avec eux et à dire, dites-moi, qu'est-ce que vous voulez faire, même si j'ai une petite idée. Et comment on travaille ensemble en bonne intelligence?
Parce que le risque aussi de cette régulation, c'est que cette forme de transparence totale de la blockchain fait que si c'est mis entre les mains d'un État et que c'est régulé par un État, c'est un énorme pouvoir, quoi, en fait, aussi pour ces États-là. Quoi.
Oui, c'est vrai. Que, bah,
De contraintes de liberté, quoi, en voilà, fait. Moi, ou de surveillance du gouvernement, quoi, en
ouais,
fait.
Oui, alors, pour moi, la surveillance, ça reviendrait plutôt des...
C'est CBDC. Du alcan en Chine.
Ce qu'on appelle les CBDC, c'est les tokens qui sont faits par les États.
Ouais.
Le Central Bank Digital Currency, ça veut dire. Et ça, pour moi, ça me... Je ne suis pas un absolutiste de la privacy. Il y a beaucoup aux États-Unis ce qu'on appelle les libertariens. On ne connaît pas trop. Il n'y a pas vraiment ça en Europe. Hein, des,
non, et, on les appelle les crypto-maximalistes ici.
Non, mais c'est même plus large que ça. Ils sont un petit peu... c'est un mouvement qui est difficile à identifier en Europe parce que vraiment, ça n'existe pas. Ils sont...
C'est des anarchistes capitalistes, quoi.
Anarchistes capitalistes, parfois extrême droite, parfois ouais. Trumpistes. C'est plus difficile à identifier. Et moi, je ne fais pas partie de cela. Moi, je ne suis pas en train de dire qu'il faut avoir aucun État, il ne faut pas de réglementation, pas de régulation. Par contre, le CBDC, ça me fait peur parce que ça serait des tokens issués par les centrales banques. Et là, effectivement, l'État va savoir tout ce que tu dépenses. À quelle heure tu as été prendre ton café à 8h du matin le lundi. Et je ne suis pas sûr que ce soit des informations...
Qu'on ait envie de partager.
Qu'on ait envie de partager avec un État.
Ouais. Plus,
on a de la chance encore ici, en Europe, en Occident, on a encore des États dans lesquels on peut avoir relativement confiance quand même. Mais je ne suis pas sûr que ce soit quelque chose de très, très bien.
Ouais.
Et je pense qu'on doit avoir une certaine forme de respect de la vie privée sur ce qu'on achète.
Merci Mathieu, c'était cool de te voir à New York.
Merci Carlos.
Je descendrai te voir à LA.
Quand tu veux.
On fera un Silicon Carnet à LA, quoi, en fait.
Bah, quand tu veux, voilà. Ouais. Et puis, en plus, c'est bon pour l'audio parce qu'il fait toujours beau.
Ouais, il fait toujours beau. On te bise, Mathieu. Ciao. Salut Julien.
Salut Carlos, comment vas-tu?
Bah, ça va, super. T'es de New York.
Bah, exactement, moi
t'es
je suis basé ici à Brooklyn, c'est dans mon jardin on va dire. J'aimerais bien,
c'est moi qui viens de voir en fait, c'est ça.
Exactement, bienvenue à New York.
Non mais je disais en fait, là, ça fait quelques jours qu'on est à NFT NYC, à conférence, bof.
C'est la grosse messe, c'est le bordel, messe en anglais.
Ouais,
messe,
grosse messe en anglais, ouais, c'est
grosse
ça. Ouais.
Messe, exactement, non c'est le bordel. Après l'avantage c'est que ça fait venir tout le monde ici, donc en fait il y a plein de side events. C'est peut-être le secret de NFT NYC, c'est qu'il faut aller participer aux petits side events à droite à gauche. Pour rencontrer des gens un peu plus que les Ball Apes et autres, on va dire, goût culturel dans les NFT.
Alors, il y a beaucoup de monde quand même. Hein. Ouais. C'est-à-dire que tout le monde disait que c'est la mort des cryptos, etc. Il y a quand même un groupe de fervents supporters. On les voit, ils sont là. Très jeunes, d'ailleurs. Ouais. Très différents aussi.
Après, tu sais, dans le marché des cryptos, globalement, on doit être quoi? Au cinquième bear market. C'est la première fois qu'on vit un
turmoil.
Je pense que là, c'est quand même vachement drivé par l'écosystème au-delà des cryptos. C'est-à-dire que c'est vraiment les marchés qui sont même en plein questionnement. Et forcément, le truc un peu innovant, un peu marginal, c'est le truc qui prend cher au début. Ça ne veut pas dire que ça va remarquer dans 3 mois, j'en sais rien. Mais ce que je veux dire, c'est que ça ne m'étonne pas et qu'il ne faut pas s'inquiéter. Ça fait partie du fonctionnement normal du marché crypto-blockchain.
Rappelle-nous, parce que bon, toi, tu es un habitué, tu étais déjà venu dans un épisode de Silicon Carnet qui a très, très bien marché d'ailleurs. Tu es en charge d'un protocole qui s'appelle Unlock.
Tout à fait. Alors moi, j'ai créé un protocole qui s'appelle Unlock. L'idée, c'est de permettre à n'importe quelle communauté, marque, créateur de monétiser sa relation avec son audience en déployant son propre contrat d'adhésion en français, de membership en anglais. Et en fait, les adhésions, les cartes de membres sont des NFT. Alors, l'aspect unique, et ce qui est assez, pour le coup, vraiment unique dans l'écosystème, c'est que c'est des NFT qui ont une date d'expiration. Donc, c'est des NFT qui permettent d'avoir des revenus récurrents pour les créateurs, en particulier de dire, bah là, t'es membre de ça pendant une semaine, un mois, 3 ans. Ça peut même être fait de manière récurrente. Donc, c'est tous les mois.
Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le token, il se brûle automatiquement?
Alors, il se brûle pas automatiquement, mais en fait, il a une donnée on-chain qui est une date d'expiration. Donc, tout le monde peut voir que tu as un NFT, mais qu'il est expiré. Donc, après, il peut changer même visuellement d'aspect en fonction de son expiration. Ce que je dis, c'est comme ta carte de gym qui est dans ton porte-monnaie. Ouais. T'es pas allé au gym pendant 6 mois. Elle est toujours là, mais elle marchera plus maintenant
quand
tu vas
pointer. Ouais, c'est exactement. Ça. Ouais. Non, c'est vachement intéressant. Et alors, tu disais, il y a aussi plein d'événements autour en fait de NFT NYC. Et il y a un événement dont tu me parlais, c'est cet événement autour des DAO. Tu peux
expliquer
un petit
DAO
peu.
Exactement. C'est DAO NYC. Alors les DAO, je sais pas. On va partir du principe que les gens sont un peu familiers, mais decentralized autonomous organization, c'est vraiment cette idée de se dire que des communautés sur Internet peuvent s'organiser avec des incentives économiques sans que les gens se connaissent ni d'Ève ni d'Adam, mais avec évidemment un compte bancaire commun entre guillemets qui leur permet d'investir dans certaines choses, dans le cas de DAO qui investissent, ou même juste de décider de dépenser de l'argent pour faire certaines autres choses. Et donc il y a cette petite conférence qui a lieu downtown, donc un peu plus au sud que là où on est maintenant, qui s'appelle DAO NYC, qui regroupe en fait tous les gens dans l'écosystème qui pensent au DAO. Il doit y avoir 200 ou 300 personnes, donc c'est pas non plus la même taille que NFT NYC, mais ça commence à être pas mal. Et ce qui est cool, c'est qu'on voit vraiment tout un tas de gens qui se posent des questions sur comment est-ce qu'on gère les DAO, comment est-ce qu'on encourage la participation, comment est-ce que ça marche fiscalement, comment est-ce qu'on bosse pour un DAO, parce qu'il y a de plus en plus de gens qui sont en fait, on peut dire salariés de DAO, mais dont le boulot de base est d'être payé par des DAO pour faire, pour bosser là-dessus, quoi.
Est-ce que c'est la nouvelle entreprise de demain, quoi, en fait, c'est ça?
J'en sais rien, c'est la nouvelle entreprise, c'est la nouvelle organisation. C'est-à-dire que moi, ce que je vois après, bon, je te fais mon petit pitch, j'ai écrit un blog post.
Pour les Français, ça serait la nouvelle SARL, quoi, grosso modo.
Ouais, le nouveau type de. Alors, ça peut être la SARL, ça peut être l'ONG, ça peut être l'association, en fait, aussi. C'est vraiment toutes des organisations qui. Ça peut être l'Église. Alors,
on a en France l'association Loi 1901, qui est quelque part une forme de communauté autour d'un compte bancaire avec une forme de gouvernance avec un président,
qui est pas
un trésorier
décentralisé, qui en général qui est pas très autonome,
pas très public et visible non plus,
mais relativement organisé pour le coup. Mais voilà, tu peux imaginer que c'est effectivement des proto DAO. Des exemples de base que quand les gens me disent explique-moi un DAO, je dirais qu'Anonymous, le groupe de hackers, c'est une sorte de DAO. Il n'y a pas de compte bancaire encore, je pense qu'il y a
Wikipédia pourrait être une DAO.
Wikipédia est un proto DAO, moi c'est juste un exemple de ce qu'était un DAO initialement. Je sais pas si vous vous rappelez de GameStop l'année dernière, donc les subreddits sont un peu des sortes de proto DAO. Alors c'est pas totalement autonome et décentralisé parce que c'est sur Reddit, mais c'est déjà des communautés de gens qui se connaissent pas forcément, qui se pointent, qui sont en général anonymes ou derrière un handle et qui vont bosser. Alors dans le cadre d'un Reddit, ça va être de faire monter les histoires qui sont intéressantes dans les communautés. Dans le cadre de Wikipédia, ça va être d'écrire des articles, qui vont bosser pour une cause commune sans avoir évidemment un patron qui leur dit de bosser, sans avoir un culte, enfin tu vois, d'avoir une bible commune qui leur dit il faut faire telle ou telle chose. Donc c'est vraiment c'est ça pour moi.
Oui, parce qu'en fait il y a un concept assez intéressant dans les DAO qu'on appelle les bounties, qu'en fait qui sont là comme pour récompenser les contributeurs d'une DAO avec du cash, quoi, en fait.
Avec des cryptos. Un des aspects à mon avis important des DAO, c'est justement l'idée qu'il y a un incentive économique à travailler pour le DAO. Pour moi, alors un autre proto DAO que quand je dis ça les gens me regardent un peu bizarrement, mais pour moi c'est Bitcoin. En fait, quand tu réfléchis à Bitcoin, les mineurs dans le monde entier, la plupart ils se connaissent pas les uns les autres, il y en a qui se connaissent sans doute, mais moi je peux décider demain matin d'aller m'acheter un mineur, le mettre dans mon salon et je bosse pour Bitcoin, le réseau, c'est-à-dire que je vais miner
ou Ethereum
ou voilà. Et donc en fait tu peux vraiment, pour moi ça, et l'incentive économique évidemment c'est la block reward dans le cas de Bitcoin ou d'Ethereum pour avoir sécurisé la chaîne en fournissant un nouveau bloc là-dessus. Donc vraiment le DAO, moi je le vois comme ça, c'est-à-dire que chaque innovation technologique dans l'histoire de l'humanité a créé ses propres organisations. Parler de la société, de la SARL en France ou de la corporation aux États-Unis, ça découle à mon avis directement de l'invention de la machine à imprimer, de l'industrie, hein, en fait. L'industrie à mon avis découle de ça, c'est-à-dire que quand tu te retrouves avec des contrats qui sont reproductibles à l'infini avec des machines à copier, enfin vraiment la machine à imprimer, tu permets d'avoir des gens qui s'organisent en disant ok, on a plus qu'un seul mec qui va réécrire à la main le truc. Donc t'as vraiment l'émergence de ça. L'invention de l'écriture, pour moi, ça donne l'émergence des cultes, la Bible, la Torah, ça c'est vraiment l'écriture. Les cultes sont des organisations d'humains qui se mettent à bosser ensemble. Internet, inventé il y a 25 ans, n'avait pas encore son organisation un peu typique, et pour moi le DAO c'est ça, c'est l'émergence des organisations à l'échelle qui résulte de l'invention d'Internet comme un moyen de communication, de collaboration en fait entre les humains.
Super passionnant ça.
Yes.
Il faudrait qu'on fasse une émission spéciale d'ailleurs sur les DAO. On va te retrouver, Julien. Alors Julien Genestou, pour ceux qui se posent la question de qui est ce Julien.
Ouais, c'est vrai.
Qui est responsable du protocole Unlock. C'était super de te voir à New York, Julien.
Écoute, ça me fait plaisir de t'accueillir ici. C'est hyper bruyant. J'espère que ça passera pas trop dans le podcast.
Ça fait partie du jeu, quoi. En fait, l'idée c'était de faire vivre à la communauté l'expérience de NFT NYC, et New York c'est très bruyant, on est à Times Square, donc
c'est juste,
voilà, vous êtes au cœur, on est au cœur de New York,
une ville qui ne dort jamais, comme
une
disait
ville
l'autre
qui ne dort jamais. Je sais pas comment vous faites pour vivre ici, quoi. J'ai hâte de retourner à SF.
Moi je suis à Brooklyn, c'est un poil plus calme. Je t'avoue que même à Brooklyn des fois je me dis putain, mais quel bruit, quel bazar. Non, il y a un petit côté effectivement bazar, tu sais, presque souk. NFT NYC c'est un peu ça, c'est un peu truc où t'as vraiment pas mal d'arnaques et des faux sacs Louis Vuitton à tous les coins de rue.
Ouais.
Mais t'as aussi des projets intéressants, des gens sympas, et puis c'est un
faut faire le tri, quoi.
Il faut faire le tri, exactement.
Voilà. Bon, ben bienvenue au souk de Marrakech et faites le tri parmi les NFT que vous voyez ici à New York. Allez, ciao.
Merci Carlos.
Voilà, c'est la fin de cet épisode un petit peu spécial. J'espère que vous avez apprécié le fait de m'accompagner dans cette aventure new-yorkaise. On était à NFT NYC ensemble. Je vous ai emmené dans mes bagages et je vous ai fait rencontrer tous ces gens que j'adore, qui sont mes potes et que j'ai pu retrouver à New York. Il y avait aussi quelques inconnus. Je ne saurais même pas me rappeler de leur nom. Mais voilà, leurs témoignages étaient super intéressants. J'espère qu'ils vous ont donné aussi une certaine certaine visibilité sur ce secteur de la crypto et des NFT, et peut-être qu'ils vous auront éclairé sur les opportunités qu'offre ce nouveau monde. En tout cas, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un prochain épisode de Silicon Carnet. Hasta luego, amigos!